journal vous est présenté par Oana Favenec.
Bonjour à tous. La réforme des retraites fera l'objet d'une consultation des syndicats, mais aussi des Français. Les détails seront révélés la semaine prochaine, mais la méthode a de quoi surprendre. Un nouvel épisode de la guerre d'usure que se livrent les États-Unis et l'Iran. Il est aujourd'hui question d'un drone abattu hier par un navire américain dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis sont formels, il est iranien, Téhéran dément des allégations délirantes. Dans ce journal, vous découvrirez aussi un champignon mangeur de mégots, une nouvelle manière de se débarrasser des déchets pour les festivals. Et puis, à 12h45, la grande table d'été à Avignon. Maïlys Besri vous invite à Cuba à travers le spectacle Grande Malle et Trombone de la Havane. Elle fera aussi le portrait du metteur en scène et chorégraphe Faustin Lignicula. Un système à points, une retraite pivot à 64 ans, ce sont des préconisations. Agnès Buzyn revient ce matin chez nos confrères de France Info sur le rapport de Levoix remis hier, la feuille de route sur la réforme des retraites. S'en suivra bien sûr une concertation avec les partenaires sociaux, mais la ministre des Solidarités et de la Santé parle aussi d'échanger avec les Français. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Doit-on y voir le signe que le gouvernement veut minimiser le rôle des syndicats dans cette réforme ?
On peut d'abord y voir le signe d'un probable épisode 2 du grand débat national. Emmanuel Macron semble avoir pris goût à l'exercice. La piste d'un nouveau Tour de France consacré cette fois aux retraites est à l'étude. Et à entendre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, c'est d'ailleurs plus qu'une simple piste.
Le Premier ministre annoncera la semaine prochaine la méthode de concertation ainsi que le calendrier des concertations. Quelque chose qui s'apparente à un vrai dialogue direct avec les Français. Pourquoi ? Parce que c'est une refondation qui doit leur parler.
Et pour que ça leur parle, l'exécutif ne fait qu'à moitié confiance aux syndicats.
Nous avons besoin de parler avec les Français eux-mêmes pour qu'ils s'approprient la philosophie de cette réforme. Il y a certains syndicats qui ne sont pas en faveur d'une retraite par point, par exemple. En réalité, ils ne veulent pas s'inscrire dans une refondation globale du système. Tout cela va être maintenant soumis à concertation et j'engage tous les Français à regarder le rapport. Parce qu'il est très très intéressant à lire, il est très simple à lire et on comprend la philosophie. Voilà, je crois que ce sera une discussion intéressante, c'est vraiment un débat de société très très important.
Mais un débat de société potentiellement explosif, il va falloir déminer des totems effrayants, ça va être dur, reconnaît un secrétaire d'État. Et il y a, nous dit-on, une vraie volonté du président de la République de parler différemment aux Français, plus directement, sans passer par les corps intermédiaires ou en tout cas sans passer seulement par eux.
Rosalie Lafarge. Autre dossier sensible de la rentrée, la loi sur la bioéthique. Le texte sera sur la table du prochain Conseil des ministres. Avec une question qui divise encore, notamment chez les Républicains, la PMA, la procréation médicalement assistée pour les femmes seules ou en couple avec une autre femme. François-Xavier Bellamy, candidat malheureux du Parti pour les Européennes, s'était déjà exprimé sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il est peu enthousiaste sur la PMA.
Ce que je défendrai dans ce débat n'a absolument rien à voir avec une forme de radicalisation quelconque. Je crois simplement qu'on doit pouvoir dire que ce qui est devant nous, c'est la grande question de savoir quelle place doit avoir la technique dans nos vies pour pouvoir satisfaire et répondre à des désirs qui sont en eux-mêmes parfaitement légitimes. Le désir d'enfant est parfaitement légitime et parfaitement respectable. Mais la question, c'est faut-il demander à la médecine de sortir de la logique qu'elle poursuit depuis des siècles qui consiste à réparer les corps pour venir satisfaire nos désirs lorsque nos corps ne sont pas malades, simplement lorsque nos corps, par notre condition humaine, ne répondent pas à ces désirs. Mais la question qui nous est posée à tous, et c'est une question politique, c'est la question de savoir quelle réponse nous devons apporter à ce désir. Et derrière cette question-là, il y a les grands débats qui attendent notre avenir, les grands débats politiques autour de la question du transhumanisme, par exemple. C'est des débats qui doivent être pris au sérieux. Et on ne peut pas se placer devant ces débats simplement avec le désir de paraître moderne ou d'avoir l'impression d'être au goût du jour. La question, c'est la question de ce qui pourra nous permettre de construire une société plus juste, une société plus humaine.
François-Xavier Bellamy chez nos confrères de France Inter. L'âge du permis de conduire est abaissé de 6 mois, autrefois fixé à 17 ans et demi pour les candidats ayant pratiqué la conduite accompagnée. Il sera fixé à 17 ans à partir de lundi. Mais attention, comme auparavant, on n'aura pas le droit de conduire seul avant d'être majeur. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans les colonnes du Parisien hier. Les réactions des professionnels sont mitigées, Ilan Malka.
Oui, alors les réactions sont assez diverses. Il y a quelques inquiétudes, par exemple celle de l'association Prévention Routière, par la voix de sa déléguée générale Anne Laveau. C'était sur France Info.
Entre 17 ans et 18 ans, âge auquel vous pourrez conduire seul, rien ne vous obligera à pratiquer la conduite. Et donc, il va y avoir une année entière sans pratique. En termes de sécurité routière, pour nous, c'est pas complètement rassurant.
Alors, du côté des auto-écoles, le son de cloche est beaucoup plus positif. La conduite accompagnée, c'est un dispositif qui a fait ses preuves. L'étendre, c'est donc une bonne idée. C'est ce que nous dit Patrice Besson. Il est le président du CNPA Éducation Routière, le syndicat qui représente les auto-écoles. Mais selon lui, les vrais problèmes restent quand même encore à traiter.
C'est une belle réforme, mais elle ne touche pas la cible. Les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est le financement au permis. Ils veulent payer le moins cher possible la formation. Et donc, il faut qu'on arrive à financer cette formation. Parce que autrement, ce sera toujours problématique pour eux. Ce sera toujours les plus aisés qui accéderont à des formations de qualité et les moins aisés qui n'auront pas le permis et qui conduiront sans permis. Et donc, on a envoyé un courrier, pas plus tard que hier, au ministre de l'Intérieur, demandant à la rentrée une grande conférence sociale sur le financement du permis.
Et dans ce cadre, le CNPA va proposer des idées au gouvernement pour, dit-il, faire baisser le prix du permis de 80%. Par exemple, que les jeunes puissent faire financer leur permis sur le compte personnel de formation de leurs parents.
Ilan Malka, merci. Nous sommes le 19 juillet et une deuxième canicule est en vue, prévue au début de la semaine prochaine, avec des températures qui vont progressivement augmenter à partir de ce week-end. Ce nouvel épisode caniculaire devrait durer moins longtemps que celui que l'on a connu en juin. Véronique Rebérot, bonjour.
Bonjour.
Avant même d'entamer le mois d'août, l'année 2019 s'apprête à entrer dans le club encore assez restreint des années ayant subi au moins deux vagues de chaleur.
Ouais, elles ne sont pas encore nombreuses. Ces années, depuis 1947, date à laquelle on a commencé à les répertorier, ces années, avoir connu plusieurs vagues de chaleur, autrement dit des températures bien au-dessus des normes saisonnières, pendant au moins 3 jours. 11 années seulement, et même 4 répertoriées, avoir duré au moins 4 jours et plus, 1994, 2003, 2015 et 2017. Le phénomène, vous le voyez, tend à devenir plus fréquent depuis les années 2000. Ce que semble dire Météo France, c'est qu'on n'est peut-être pas au bout de nos peines. Nous ne sommes que le 19 juillet, vous l'avez dit, pourquoi pas d'autres vagues de chaleur dans les semaines qui viennent, où il devient même difficile de se rafraîchir, même au bord de l'eau. 32 degrés en Méditerranée, tout près de Marseille, un autre record aussi cette année.
Et hors de France, là aussi, l'été s'annonce inédit en termes de chaleur.
Oui, il y a effectivement beaucoup de records de chaleur battus cette année dans le monde. Il y en a un qui ne dit vraiment rien de bon. 21 degrés relevés dimanche dernier dans l'océan Arctique, à 900 km du pôle Nord, à alerte précisément. Phénoménal, foudroyant, disent les scientifiques. À cette saison, la température moyenne ne devrait pas excéder les 6 degrés. 20 degrés au lieu de 6, c'est chaudement terrifiant.
Merci Véronique. Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'inquiète d'ailleurs aujourd'hui pour les personnes qui ne sont pas particulièrement vulnérables. Les accidents graves que nous avons pu observer le mois dernier sont des personnes qui ont fait du vélo à midi, dit-elle, citant également l'exemple de personnes qui ont pris la voiture sur de longs trajets sans boire suffisamment. À qui appartient le drone abattu hier par les États-Unis? L'Iran a compté ses appareils envoyés dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Ils sont bien tous revenus à leur base, assurent les forces armées iraniennes ce matin. Donald Trump déclarait pourtant hier soir que l'USS Boxer, un navire amphibie américain, avait abattu un drone iranien qui s'était approché d'un peu trop près. Ce n'est pas le premier incident entre les deux pays qui multiplient les escarmouches et entretiennent une tension certaine autour du détroit d'Ormuz. On se souvient du président américain qui annonçait il y a quelques semaines avoir arrêté à la dernière minute une action militaire contre l'Iran. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous, Christian Chéneau. Bonjour.
Bonjour.
Christian, l'Iran et les États-Unis sont-ils en train de préparer une guerre?
En tout cas, Oana, Iraniens et Américains se rendent coup pour coup. Les incidents se multiplient, c'est vrai, mais tous semblent soigneusement calibrés pour éviter le déclenchement d'une guerre. Jusqu'à présent, les accrochages concernent des pétroliers, des drones et il n'y a pas eu de victimes. Bref, tout semble montrer qu'à ce stade, à Téhéran comme à Washington, on ne veut pas d'affrontement direct qui pourrait dégénérer en conflit armé de grande envergure. L'Iran répète vouloir négocier et surtout a fait savoir que ces dernières mesures qui augmentent ses capacités d'enrichissement d'uranium étaient réversibles. Mais Téhéran veut aussi un geste concret des grandes puissances, notamment celui de pouvoir exporter son pétrole. Un diplomate iranien nous a confié en privé que l'Iran ne tirera pas la première balle mais ripostera en cas d'attaque. Côté américain, Donald Trump vient d'entrer en campagne électorale et lui aussi ne souhaite pas forcément un conflit qui pourrait pourrait être coûteux politiquement et financièrement. Autre élément qui invite à la retenue guerrière, les Européens, avec la France en tête, qui cherche à calmer le jeu en proposant une pause dans cette crise entre l'Iran et les États-Unis. Enfin, il y a aussi les pétromonarchies du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui poussent à une désescalade. Sauf que la multiplication des incidents ces dernières semaines et l'afflux de navires de guerre dans le Golfe Persique augmentent les risques de dérapage sérieux, alors qu'aucune sortie de crise n'est en vue.
Christian Chesneau, merci. Le pétrolier iranien Gras 1 reste immobilisé à Gibraltar pour 30 jours supplémentaires. Décision de la Cour suprême du territoire britannique. Il avait été arraisonné il y a 15 jours par les autorités de Gibraltar qui le soupçonnaient de livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions internationales. L'État néerlandais a une responsabilité très limitée dans le massacre de Srebrenica. La Cour suprême vient de statuer sur le rôle des casques bleus néerlandais en 1995. L'enclave de l'Est de la Bosnie était sous protection de l'ONU quand des forces serbes assassinèrent près de 8000 garçons et hommes musulmans. 350 d'entre eux venaient d'être expulsés d'une base néerlandaise. La reine Elisabeth pourrait-elle sauver le Brexit? Les députés britanniques ont voté hier pour être sûrs d'avoir leur mot à dire et empêcher Boris Johnson, le prochain Premier ministre britannique, de mettre en œuvre le Brexit sans les consulter. Certains rebelles conservateurs veulent même en appeler officiellement à la reine Elodie Goulesque.
Il semble prête à tout quitte à emmener Elisabeth II et ses chapeaux jusqu'à Bruxelles. Preuve que le Brexit pousse les députés britanniques dans leur retranchement, une poignée d'entre eux, des conservateurs, veulent utiliser une humble address to the Queen, un message du Parlement adressé directement à la reine, pour empêcher qu'un Brexit dur ne soit imposé par le prochain Premier ministre, sans passer par un vote de validation des députés. Si le processus aboutissait, cela voudrait dire que la reine, qui est chef d'État, pourrait outrepasser son Premier ministre, se rendre à Bruxelles et demander une extension pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Cette hypothèse survient au lendemain d'un vote des députés contre la suspension du Parlement. Le vote, avec une majorité de 41 voix, empêche le prochain Premier ministre de faire passer un Brexit dur sans un vote au Parlement. Une solution que laisse planer depuis des semaines le probable prochain locataire de Downing Street, Boris Johnson. Mais la monarchie britannique a pour principe de ne pas interférer dans la vie politique du pays. Cette demande apparaît plutôt comme un moyen de pression contre le prochain chef de l'exécutif. Peu probable donc qu'Elisabeth II s'engouffre dans le tunnel du Brexit, et encore moins le tunnel sous la Manche.
Elodie Goulesque, correspondante à Londres pour France Culture. Que faire de nos mégots de cigarettes? Le festival Le Cabaret Vert, qui se tient à Charleville-Mézières fin août, testera lors de sa prochaine édition une nouvelle solution. Un champignon qui mange les mégots. Une designeuse installée à Bruxelles utilise le mycélium, la racine d'un certain type de champignon, pour digérer ces déchets particulièrement toxiques. Et elle en fait des cendriers, Alexandre Blanc.
Concrètement, on dépose sa cigarette dans une litière de paille, de copeaux de bois, de carton qui sert de lieu de culture aux champignons. Deux semaines après, le mycélium recouvre déjà les mégots. En deux mois, ils sont digérés. Un déchet qui disparaît, ça arrange bien le responsable développement durable du Cabaret Vert, Jean Périssin.
Alors les mégots, c'est le déchet number one du festival. Hein. C'est celui avec lequel on a plus de fil à retordre. C'est un déchet extrêmement nocif et extrêmement présent. Et en plus, petit. Donc voilà, il a tous les inconvénients. Pour le moment, les mégots, ils sont mis à part. Ils sont retraités par notre centre de déchets traditionnel sur Charleville-Mézières. Et on recherche justement des filières de recyclage de mégots. Il y a deux, trois initiatives qui ont fleuri. Celle la plus connue, c'est Mégot à Brest, qui propose de faire des résines à partir des mégots. Mais Brest, c'est loin. Enfin, envoyer 10 kilos de mégots à Brest, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que la solution de Purifungi pourrait être une solution qu'on pourrait développer en local. Je veux dire, développer des champignons dans les Ardennes, on sait le faire. On a tout ce qu'il faut, le climat, les installations. Donc à voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait développer ici.
Sachant qu'une fois le mégot digéré par le champignon, il en résulte un matériau qui peut lui-même être réutilisé sous forme de briques pour la construction ou encore pour se substituer au plastique dans les emballages. On peut même imaginer que les mégots servent au final à fabriquer des cendriers.
Alexandre Blanc de France Bleu, Champagne, Ardennes. Autre innovation qui sera présentée au Cabaret Vert, une poubelle intelligente qui fait elle-même le tri des déchets. Un mot de météo, elle sera pluvieuse en Bretagne, ensoleillée au sud. Le temps reste le plus souvent très nuageux avec un peu de pluie entre la Bretagne et le Cotentin. Sur les autres régions situées au nord de la Loire, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec un petit risque d'ondées près des frontières du nord-est. Une averse sera à craindre cet après-midi sur l'est des Pyrénées, les Alpes du sud et le relief de la Corse. Cet après-midi, il fera 21 à 25 degrés sur les régions voisines de la Manche. 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 34 degrés en vallée du Rhône et vallée de la Garonne. Cette édition a été préparée avec l'aide de François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous d'information à 18h.